Jelo kwa kukongo na kigo, abishana yunga ya tsego kasyo.
Merci Tina Salama, bonsoir. Adoption vendredi dernier au Sénat du rapport de la commission Lunda Bululu sur le détournement des deniers publics dans la province de l'Équateur par l'actuel gouverneur de province Jean-Claude Baïndi. Sur quoi la commission sénatoriale s'est-elle basée pour élaborer ce rapport? Quelles pourraient en être les conséquences? Nos invités dans cette émission sont Jonathan Bialosuka, sénateur et rapporteur de la commission Lunda Bululu. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir sénateur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Professeur Paul Gaspard Ndondankoy, enseignant de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa, également avec nous dans ce studio. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Maître Bismas Mangbengu, conseiller principal du gouverneur de l'Équateur. Lui, il est en ligne. Bonsoir maître.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Adoption vendredi dernier au Sénat du rapport de la commission Lunda Bululu, commission qui était chargée d'enquêter au mois d'octobre dernier sur les fonds alloués par le gouvernement central à la province de l'Équateur. Selon ce rapport, Jean-Claude Baïndi, cette fois-là gouverneur intérimaire, et plusieurs autres personnes sont accusées de détournement des deniers publics. Par conséquent, ils doivent répondre de leurs actes devant la justice. Plus de détails avec Basile Bakumbani.
Contrairement au rendez-vous manqué du jeudi dernier, la plénière de vendredi n'a connu aucun problème de quorum. Les 10 heures locales, 72 députés sur 108 étaient prêts pour aborder le sujet. Malgré la motion demandant le report de la plénière faite par le sénateur Moulaïla de l'AMP, ils ont tous décidé d'entamer l'examen du rapport Lunda Bululu jusqu'au bout. Rapport qui, dans sa lecture, a noté les détournements criants de fonds alloués aux entités territoriales décentralisées, de reliquats de salaires de fonctionnaires publics et autres professionnels de santé de l'Équateur, mais aussi les détournements de 900 millions de francs congolais des associations destinées au paiement de l'exécutif provincial et bien d'autres fonds. Tout ceci à la charge de Jean-Claude Baïndi, cette fois la gouverneure ad intérim, et ses complices. On y note également l'obstruction de l'enquête du Sénat et l'humiliation des sénateurs par le même groupe, ainsi que la détention illégale d'armes à feu, l'incitation à la violence et bien d'autres griefs à la charge de certains complices. D'où la recommandation faite par cette commission d'enquête de déférer les auteurs de ces actes devant la justice. C'est après un débat houlé de près de 7 heures que les sénateurs, toutes tendances confondues, ont adopté ces rapports, bien sûr moyennant quelques amendements.
Rapport adopté moyennant amendement, sénateur Jonathan Bialosuka, cela vous a certainement réjoui que le rapport soit adopté.
Oui, cela nous a réjoui et ça a réjoui aussi le peuple congolais puisque c'est au nom de ce peuple congolais que nous avons agi. C'est ce peuple qui nous a envoyé au Sénat, c'est à son nom que nous effectuons les prérogatives relatives au contrôle parlementaire.
Ce rapport vous a réjoui, vous venez de le dire, mais on sait que vous avez eu beaucoup de problèmes hein, pour descendre sur terrain. Et sur quoi vous vous êtes basé pour le réaliser du moment que le gouvernement provincial avait presque scellé les bureaux, vous avez presque empêché de travailler?
Oui, ce rapport a surpris plus d'un, puisque beaucoup de nos compatriotes croyaient que on était bloqué par l'obstruction faite à la commission par le gouverneur Ali Baïndi et qu'on ne pouvait pas rentrer avec quelque chose qui pouvait être consistante pour notre peuple. Et je me souviens encore, même en Bandaka, on nous traitait des touristes par les complices de Baïndi, et qu'à la lecture de ces rapports, que des choses soient diffusées, que des révélations soient faites, ça étonnait plus d'un. À quoi nous sommes basés? Nous sommes des techniciens à la matière. La commission a été composée de gens qui sont vraiment rodés dans la gestion de l'État, dans les finances publiques et dans le travail d'audit et de contrôle. Il y avait des juristes. Nous nous sommes basés sur des mécanismes qui étaient en notre possession pour élaborer un rapport qui a été soumis à l'examen au niveau du Parlement et qui a été adopté à la satisfaction de tous.
Alors pour les auditeurs qui vous suivent, hein, ils n'ont pas tous connaissance de ces mécanismes dont vous parlez. Les bureaux étaient scellés, le gouvernement provincial en son temps l'avait dit, mais quels sont les éléments que vous avez eu pour dresser ce rapport?
En fait, la partie financière de notre mission était relative à la traçabilité des fonds alloués par le gouvernement central de la République à la province de l'Équateur. Nous sommes partis de ce qui se passe d'abord au niveau des ministères à Kinshasa. Il y a le ministère du budget qui s'occupe de la liquidation des dépenses, ça va au ministère des Finances où il y a l'ordonnancement, et ça va à la Banque centrale qui s'occupe des paiements. Et ces paiements sont versés dans des comptes de la province au niveau de l'Équateur. Et à ce stade-là, il n'y avait pas de problème, puisque nous avons eu tous les éléments à partir de Kinshasa, au ministère du Budget, au ministère des Finances et à la Banque centrale, par des OPI informatisés, par des OPI. Et au niveau de la Banque centrale de Mbandaka, la succursale de la Banque centrale en Mbandaka, nous avons été en possession de beaucoup d'éléments. Nous avons procédé par des méthodes d'échantillonnage. Certains fonds qui sont sortis du compte de développement de la province nous ont aussi tiqués. Et nous sommes partis par des investigations, par des méthodes qui ont été les miennes, qu'on ne voudrait pas dévoiler ici. Mais nous sommes tombés sur certains chèques qui nous ont permis de voir que réellement il y a eu des sorties de fonds frauduleux au niveau des comptes de la province.
Voilà, alors avec vous, on s'arrête momentanément là, mais vous êtes avec nous tout le long de cette émission. Maître Dismas Lambengou, vous êtes conseiller principal du gouverneur de l'Équateur, Jean-Claude Bayende. Comment vous avez reçu l'adoption de ce rapport au Sénat?
Oui, merci monsieur le journaliste. Non seulement merci monsieur le journaliste, mais merci à Dieu qui donne l'occasion au peuple congolais de suivre un peu la réalité ou la vérité sur ce soi-disant rapport de la commission sénatoriale envoyée à Mbandaka pour prétendument constater le détournement des données publiques. Et puisque vous me posez la question, vous avez tout dit. Et la réponse qui a été donnée par le sénateur, contrôleur, il vous dit pas, la question est précise, sur quoi la commission sénatoriale s'est-elle basée pour élaborer ce rapport. Il ne vous dit pas, parce que c'est connu, il est de l'autorité publique, que la commission n'a pas été reçue. Et la commission n'a pas été une commission officieuse, n'a pas été une commission d'espionnage, pour qu'on vous parle d'échantillonnage. Non, non, la commission n'est pas allée glaner des éléments, des données brutes sur le terrain, pour, avec une certaine faculté de langage, conclure qu'il y a eu des tournements. Non. Donc là, la question n'a pas été abordée, et là, on a éludé la question en disant qu'il y a eu des hommes rodés. Rodé en quoi? Il y a eu des experts en finances publiques. Quelles finances publiques? Il y a eu des juristes. Mais non! Tout ce qui a été cité, ce n'est pas de la magie. Ça relève de faits. Il faut d'abord constater le fait, c'est-à-dire, si la porte leur était ouverte, on comprendrait que ils ont constaté des faits qu'ils ont portés à la place publique. Mais ils n'ont rien constaté. Ils se sont mis comme des touristes, excusez-moi le terme, et c'est un voyage politique, ils se sont mis à poser la question à n'importe qui, et ces éléments, non seulement glanés, n'ont pas été interprétés. C'est-à-dire, les auteurs de ces éléments n'ont pas été entendus, n'est-ce pas? Et vous verrez que dans le rapport, il n'y a aucun procès verbal d'audition qui a été dressé, il n'y a aucune preuve des allégations vantées par la commission sénatoriale qui a été, n'est-ce pas, annexée.
Maître Dismas,
oui.
Permettez-moi de vous arrêter à ce niveau pour nous aider à avoir un peu plus de précision. Mais pourquoi le gouvernement provincial de l'Équateur se réjouit-il ainsi d'avoir humilié pratiquement le Sénat, hein, qui est quand même l'une des grandes institutions de ce pays?
Mais monsieur le journaliste, on n'a pas une idée de cela. Je crois que lisez la Constitution à l'article 28. L'article 28 nous dit que nul ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. Dès lors que le gouverneur de province a eu à l'époque, allô?
Oui, vous êtes en ligne.
Merci. Aujourd'hui, gouverneur élu s'est rendu compte que des articles 100, 180, 254 de la Constitution combinés, il ne voyait pas par où, n'est-ce pas, la Constitution tirait le pouvoir légal de contrôler les comptes de la province. Ça, c'est des deux. Mais vous ne savez pas, vous oubliez qu'il y a des réalités à l'Équateur. Ce qui se passe à l'Équateur, allô?
Vous êtes en ligne, maître, allez-y, hein, concluez pour ce premier
oui,
temps.
C'est plus les positionnements pour les 11. C'est un problème politique et vous pouvez les comprendre parce que même les termes de référence de la Commission tenaient aux années 2006 à 2009, mais on a commencé uniquement en 2009.
Voilà.
Plus, oui, voilà. Ça, c'est. Si je peux, monsieur le journaliste.
Maître Dismas.
Oui.
Permettez-moi de vous arrêter à ce niveau. Le temps de donner la parole au professeur Paul Gaspard Ngondankoy, oui, qui est constitutionnaliste. Vous avez fait allusion à la Constitution. Professeur, vous avez la Constitution avec vous sur table, je la vois d'ailleurs. Et le Sénat peut-il enquêter dans une assemblée provinciale, dans un gouvernement provincial? Cela est-il constitutionnel?
Merci, monsieur le journaliste, de la question. Pour y répondre, il faut d'abord comprendre le système politique dans lequel nous sommes, la nature du régime politique et la forme de l'État. Je crois qu'il ne s'agit pas de faire un cours de droit constitutionnel à qui que ce soit ici, mais il est bon quand même de rappeler que la forme d'État actuelle n'est ni une sécession, ni un État unitaire décentralisé comme dans les temps. Nous sommes dans un État, dans un régionalisme constitutionnel qui tend peut-être vers un État fédéral, qui implique quoi? L'autonomie des provinces et leur participation au pouvoir central, mais qui implique également leur obligation de pouvoir se soumettre au principe de l'unité et du contrôle du pouvoir central, étant donné que la province, quoique disposant de l'autonomie politique et administrative ou de la personnalité juridique, demeure quand même des parties de la République. Nous ne sommes pas dans un État où les provinces ont du coup un droit à la sécession ou à l'indépendance. Nous sommes un État uni et indivisible, mais qui accorde un peu plus d'autonomie politique qu'avant aux provinces. Alors, sous la base de cela, la Constitution a organisé des mécanismes, des rapports entre les provinces et les pouvoirs centraux, lesquels mécanismes ont été concrétisés dans les lois du 31 juillet 2008, notamment la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. En exécution de la Constitution, il est prévu dans cette loi un certain nombre de mécanismes de contrôle, que ce soit des mécanismes de contrôle juridictionnel ou des contrôles tout à fait administratifs, contrôles hiérarchiques, etc. Mais dans le cas spécifique du Sénat, vous avez l'article 100 de la Constitution et l'article 138 de la même Constitution, qui donne à l'Assemblée nationale et au Sénat le pouvoir de contrôler le gouvernement, les établissements publics, les entreprises publiques et les services publics. Alors, on dirait, est-ce que les provinces sont-elles des services publics ou le gouvernement? Évidemment, oui et non. Pourquoi? D'abord, les provinces sont des composantes politiques et administratives, reconnues comme telles par la loi du 31 juillet 2008. Mais le gouverneur de province, lui, en tant que représentant de l'État central, parce que la loi du 31 juillet 2008 lui donne une double nature. Le gouverneur de province est à la fois autorité provinciale élue par l'Assemblée provinciale, mais aussi représentant du pouvoir central qui est, en tant que tel, il coordonne et supervise les services publics du pouvoir central mis à sa disposition. En tant que tel, le gouverneur de province est soumis au contrôle hiérarchique du pouvoir central, au contrôle de tutelle, voire même au contrôle politique qui peut être exercé soit par l'Assemblée nationale, soit par le Sénat, soit directement sur le gouverneur en tant qu'utilisateur des services du pouvoir central, soit par le biais d'un ministre du pouvoir central en tant que service de concentré d'un ministère, comme le ministère de l'Intérieur. Sur la base de cela, on ne peut pas dire que le Sénat ou même l'Assemblée nationale n'ont pas le pouvoir de contrôle sur la province. Non. Nous sommes dans un État uni et indivisible qui reconnaît l'autonomie politique administrative aux provinces, mais qui organise quand même un certain nombre de contrôles sur les gouvernements provinciaux, voire même sur les assemblées provinciales.
Donc, en même temps, professeur, le Sénat a le droit de contrôler le gouvernement provincial.
Surtout que dans les cas d'espèce, il s'agissait des finances du pouvoir central qui ont été mises à la disposition d'une province. Il ne s'agit pas des finances publiques propres à la province, ce sont des finances du pouvoir central destinées à la province pour le fonctionnement des services publics nationaux, comme par exemple l'enseignement, la santé, etc.
Pourrait-on dire, professeur, que ce régionalisme constitutionnel dont vous venez de parler sème une certaine confusion dans les différentes attributions entre les entités provinciales et le gouvernement central?
si confusion il y a, elle est dans la tête des gens. Parce que les textes, en dépit de leur faiblesse, nous avons déjà eu une discussion sur la Constitution, sont clairs en la matière. Si vous lisez les articles 201 à 205 qui répartissent les compétences entre le pouvoir central et la province, tout y est. Vous prenez l'article 2, qui reconnaît aux provinces la personnalité juridique, tout y est. Il suffit que tant les autorités provinciales que les autorités centrales s'imprègnent de leurs prérogatives pour pouvoir les comprendre. Dans le cas d'une province, qu'est-ce que la Constitution en reconnaît une province? D'abord, le pouvoir législatif. Contrairement aux assemblées régionales de l'époque, les provinces actuelles ont un pouvoir législatif qui s'exerce et qu'elles exercent soit dans le domaine des compétences exclusives à elles, soit dans le domaine des compétences concurrentes avec le pouvoir central. Elles ont également un pouvoir exécutif qui s'exerce dans les mêmes matières. C'est ça l'autonomie qu'on leur a reconnue. Alors, il faudrait qu'on puisse peut-être généraliser les cours de droit constitutionnel dans l'ensemble du pays pour que chacun peut-être comprenne.
Sénateur Jonathan Dialessita, vous avez suivi Maître Dismas Mandengou qui parle d'absence de PV dans le rapport. Mais une parenthèse avant de lui répondre. Jeudi dernier, on se souvient que la plénière a avorté. Qu'est-ce qui s'était passé? Le Sénat a eu peur d'aborder cette question?
Pas du tout. Il y avait absence de quorum. On n'avait pas atteint le quorum. C'est pourquoi la plénière de jeudi avait avorté. Dans tout état de cause, le vendredi, la plénière a eu lieu. Et je pense que le problème ne se pose plus à ce stade-là. Mais pour réagir à l'intervention de mon contradicteur, je voudrais d'abord lui dire ceci. Le problème de l'inconstitutionnalité de l'enquête n'est plus un problème à son niveau. Le gouverneur a Ibayende s'est référé à la Cour suprême de justice pour déposer une requête en inconstitutionnalité. Dès lors qu'il a fait ça, il ne doit pas lui-même se rendre justice. Il doit attendre que la Cour suprême se prononce. Pour notre part, nous, Sénat, dès lors que cette déposition, cette requête de M. Ibayende n'a pas un effet suspensif, l'enquête devait continuer. Donc ce n'est pas à lui-même Ibayende de se faire justice, empêcher l'enquête de toute une institution nationale. Parlant même de cette inconstitutionnalité, puisqu'il parle de la séparation du pouvoir, je vais l'envoyer à l'article 171 de la Constitution. Les finances publiques, les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. Et les finances publiques font partie des finances du pouvoir central. Il s'agit de fonds envoyés par le gouvernement central au niveau des provinces. Et il doit savoir que ces fonds-là ont été votés avant d'être promulgués par le chef de l'État dans les budgets au niveau du Parlement. Et le Parlement qui a voté ces ressources-là ne doit pas les laisser comme ça à la libre gestion de ceux à qui on envoie ça pour l'intérêt de la population. Donc, le Parlement a le pouvoir de suivre là où un seul rond du pouvoir central va pour sa gestion pour savoir si cela a été bien géré. Donc on ne peut pas à partir de là se dire que non, il y a une séparation de pouvoir. Si vous allez même à l'article 202 de la Constitution, il est dit ce qui suit. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières suivantes sont de la compétence exclusive du pouvoir central. Et vous prenez le point 9 de ces matières-là, on vous parle les finances publiques de la République. Ce n'est pas de l'argent de la province de l'Équateur, ce sont des finances publiques votées dans le budget national de l'État.
Sénateur Jonathan Biasolou, carrément, peut-être une question encore d'ordre pratique. Il a parlé d'absence de procès-verbaux dans le rapport du Sénat.
Je vais d'abord vous dire, avant qu'il ne parle de l'absence de procès-verbaux, peut-être qu'il ne savait pas que ce qu'il était en train de faire, il était lui-même de se creuser son propre fossé.
Comment
donc, si Ibayende n'était pas mal conseillé, puisqu'il s'est dit aujourd'hui qu'il n'a pas eu le temps de s'expliquer, mais du moins nous disons qu'il savait de quoi il sera question, c'est pourquoi il s'est soustrait de la commission ou de la mission d'enquête. Nous avons procédé à une mission. Nous sommes allés, je vous ai dit ici, que nous sommes partis de Kinshasa, où le premier travail a été fait. Nous sommes arrivés en Mbandaka. Nous avons eu accès à certaines données au niveau de la Banque centrale. Nous avions eu des chèques de fonds sortis sur signature du gouverneur Ibayende. D'ailleurs, je souligne, sur signature unique du gouverneur Ibayende. Des chèques signés au porteur. Ils se retrouvent entre les mains d'un certain Mohamed. Je parle seulement d'abord de ce cas-là. Mohamed Annan, qui est directeur de Soficom. Soficom, c'est une maison de messagerie pour les transferts de fonds d'un lieu à un autre, d'une ville à une autre. On se demande la première question, comment ce chèque devait se retrouver entre les mains de ce monsieur? Et dans, alors que la maison s'occupait des transferts de fonds, mais des fonds que ce monsieur va retirer à la banque centrale pour le compte de la province, lui qui n'est pas créancier du gouverneur ou du gouvernement provincial. Ce fonds-là, une partie vient à Kinshasa, une partie rentre en Bandaka. Mon frère, on ne doit pas se jouer des finances de l'État. Ça, c'est de un. De deux, on nous dit de PV. Lui qui devait répondre à l'enquête, il ne vient pas se soumettre dans le processus de contrôle. On vous dit, on vous soupçonne de ceci, voilà ce que nous avons trouvé comme élément. Venez vous justifier, vous ne venez pas. À un certain délai, si nous arrivons à la fin de la mission, qu'est-ce que nous faisons? Nous actons le fait que nous avons retenu à votre charge. C'est à vous d'aller vous justifier maintenant auprès des cours des tribunaux.
Voilà, sénateur, il y a deux réactions des auditeurs qui vous concernent. La première est celle de Gustave de Caligny au Katanga. Pourquoi attendre l'élection de Jean-Claude Bayindé à son nouveau poste pour imputer à sa charge le dit détournement? N'est-ce pas là une intention de nuire? Massoukou Pascal de Sizi au Sud Kivu. Pourquoi toutes les commissions enquêtant sur les deniers publics n'aboutissent jamais à des véritables punitions, mais par contre à des simples rapports?
Ok, merci, monsieur le journaliste. À la question de notre électeur, qui voudrait dire que pourquoi attendre l'élection de Bayindé avant de parler du rapport. Mais le travail de contrôle n'a pas de moment choisi. À tout moment, on peut toujours faire un contrôle. Si on avait d'ailleurs fait ça avant son élection, on serait tombé dans ce qu'on est en train d'appeler acharnement, qu'on voudrait barrer la route à Bayindé. Maintenant que le rapport a été présenté après l'enquête, on nous reproche de l'avoir fait, puisqu'on voudrait poursuivre un gouverneur qui a déjà été élu. Dans tous les cas, le fait d'être élu ne vous soustrait pas de la justice.
Maître Dismas Mambengu, vous allez réagir au propos du sénateur Jonathan Dialosuka. En plus, il y a deux auditeurs, l'un de Kinshasa, Isaac, qui dit « On se pose continuellement la question de savoir pour qui est la tolérance zéro, que la justice s'occupe sévèrement de Jean-Claude Bayindé suite au fait lui reproché. » Clovis de Mbandaka à l'Équateur, « Le gouverneur Bayindé peut même démissionner avant que la justice ne soit saisie, car le fait de refuser le contrôle du Sénat prouve déjà qu'il y a eu détournement. »
Oui, monsieur le journaliste, merci pour m'avoir accordé la parole. Je vais faire marche en arrière. J'ai suivi mes deux précédents intervenants dire que la rétrocession envoyée en province fait partie de l'argent du trésor public. Je crois qu'ils doivent corriger. La rétrocession fait partie des finances propres à la province. Ça s'appelle rétro. Mais si mes deux précédents intervenants parlaient de l'argent envoyé pour payer les fonctionnaires déconcentrés, je leur comprendrai, c'est-à-dire l'enseignement, les personnes de l'agriculture, les médecins et les professionnels de la santé, je comprendrai, n'est-ce pas? Mais la rétrocession, l'argent envoyé pour les étudiants, c'est-à-dire envoyé pour les entités de territoire décentralisées, ce sont des comptes propres aux provinces. Et je crois que c'est là, la toute première erreur que nous nous trompons.
Maître Dismas,
oui.
C'est là où vous mettez à l'abri d'un contrôle, même si c'est la propriété de la province.
J'en arrive, monsieur le journaliste, j'en arrive. Nous ne nous sommes pas mis à l'abri du contrôle, mais nous devons, c'est pourquoi, parce que mes deux précédents intervenants, l'un constitutionnaliste, dit qu'on ne peut pas se soustraire du contrôle parce que même le contrôle politique, on comprendrait, mais il s'agit des contrôles des finances propres à la province. Et l'exclusivité du contrôle de ce pouvoir a été donnée à l'Assemblée provinciale. Je crois qu'il a tout lu. Ça, c'est un. Des deux, j'en arrive pour dire que la rétrocession, je reviens là pour insister que la rétrocession fait partie des fonds propres à la province. Et ceux qui démontrent à Jacques-Claude Bayindé de démissionner, mais on peut démissionner quand il n'y a rien. On démissionne lorsque devant une situation, on se reproche d'avoir mal agi. Et qu'on a mes consciences, on dit, écoute, j'ai mal fait, je me retire. C'est pourquoi nous disons que toutes ces données retirées de manière brute sur la rue, n'est-ce pas, retirées de manière brute, sans avoir entendu sans que la mission ait eu lieu, ne peuvent pas donner lieu à ce rapport-là. D'ailleurs, je vous renvoie à ce rapport, à ce prétendu rapport, à part une chose, des quatrième paragraphe, où les membres de la commission sollicitent le renouvellement de la commission. Donc, monsieur le journaliste, dès lors qu'on sollicite le renouvellement de la mission d'enquête, ça suppose que la première mission n'a pas eu lieu. C'est que la commission, les membres de la commission avouent, pense aux aveux, que la première mission n'a jamais eu lieu. Et c'est pourquoi on sollicite le renouvellement. Et nous sommes d'accord avec vous, monsieur le journaliste.
Donc, si je vous comprends, à vous entendre parler, vous avez la conscience tranquille, vous avez les mains pures.
Très tranquille, parce que le jour où la Cour suprême, j'ai attendu même l'autre qui dit, mon président intervenant, qu'on ne doit pas se faire justice, mais l'article 28 de la disposition dit que nul ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. Et l'illégalité de l'ordre incombe à celui qui l'évoque. Donc, Bayende dit non, il a évoqué l'article 5, l'article 180, l'article 204 et 205, n'est-ce pas, de la Constitution. Et l'article 228 est clair.
Merci maître, vous l'avez déjà évoqué, professeur Paul Gaspard Ngondankoy, vous avez réagi également au propos de maître Dismas Lambengu, mais en plus il y a deux autres auditeurs, Francis Vissot de Goma au Nord Kivu. Pourquoi pourrait-on aboutir, dit-il, à l'annulation de l'élection de Jean-Claude Bayindé à la tête de l'Équateur suite à ce rapport? Pour ce qui lie en province orientale, le gouvernement congolais doit faire attention en engageant un personnel pauvre, entre guillemets, dit-il, à la tête des provinces. Là, je vous demande, la Constitution fixe-t-elle une pareille disposition?
Non, pas du tout. Vous ne trouverez nulle part dans un texte de loi un critère lié à la pauvreté. Non, je ne pense pas que ce soit intéressant pour une démocratie. Par contre, la question de l'annulation de l'élection du gouverneur suite à ce report, à mon avis, ne se pose pas. On annule une élection sur la base des conditions d'éligibilité mises en place par la loi électorale. Et si on constate que M. Bayindé n'avait pas rempli ces conditions-là, on peut éventuellement annuler son élection s'il y a eu d'autres irrégularités, etc. À mon avis, les deux questions sont tout à fait indépendantes. À ce stade, il n'y a rien à reprocher à son élection. Mais je voudrais réagir à ce que Maître Dismas a dit avant. Je lui demande une petite compréhension, une petite conscience qu'il peut faire à notre modeste personne lorsque nous interprétons la Constitution et les textes qui nous régissent. Je me réjouis avec lui qu'il ait reconnu que le fait d'être une province, d'être une composante politique et administrative de l'État, ne soustrait pas la province au contrôle du pouvoir central. Sur la nature de ce contrôle, je suis aussi d'accord avec lui qu'il ait reconnu qu'un contrôle politique peut être exercé, mais il semble ne pas être d'accord avec moi sur l'interprétation de la nature de la rétrocession. Il dit que la rétrocession, ce sont des fonds propres à la province qui sont destinés aux entités territoriales décentralisées. Tout est question de savoir quelle est la source de ces fonds-là. Maître Dismas n'ignore pas que les provinces ont leurs propres sources de financement. Il y a des impôts, des taxes et des droits qui relèvent de la province. Il faudrait alors déterminer dans ces cas-là quelle est la source de ces fonds pour qu'on puisse savoir s'il s'agit des fonds générés par la province elle-même et qui lui sont rétrocédés. D'ailleurs, cette expression-là de rétrocession, elle ne devrait pas être utilisée aujourd'hui après la constitution du 18 février 2006. Hein, on parle de retenir la source, mais qu'à cela ne tienne. Mais même s'il s'agit des fonds de la province, des fonds propres de la province, je voudrais rappeler que dans ce cas-là, la province est soumise tout de même au contrôle des tutelles du pouvoir central, qui peut être exercé soit par le ministre de l'Intérieur, qui est l'autorité des tutelles directes du gouverneur, soit par d'autres ministres compétents dans leur secteur respectif. Et si ces finances-là relèvent de fonds propres de la province, elles sont soumises au contrôle du pouvoir central. Alors, le Parlement peut exercer ses contrôles soit par le biais du ministre compétent au niveau de la République, soit directement au niveau du gouverneur lui-même. Donc, à mon avis, nous ne disons pas deux choses différentes. Il est simplement question ici de se mettre d'accord sur les termes, et je fais confiance à Maître Dismas que ce que j'ai dit est tout à fait compréhensible par lui.
Sénateur Jonathan Bialosuka, il y a Maïmouna de Kindu qui dit que nos députés...
Oui, je voudrais répliquer.
Maître Dismas, je vous donnerai la parole tout à l'heure et vos apaisements. Sénateur, je disais qu'il y a Maïmouna de Kindu, cet auditeur, qui dit que nos députés, les sénateurs, cessent de distraire le peuple congolais. Pourquoi les contrôles n'ont jamais eu lieu au gouvernement central, à l'Assemblée nationale et au Sénat?
Ok, je vais dire à mon électeur, je les appelle comme ça puisque c'est à leur nom que nous agissons ici. Ce n'est pas de la distraction, nous sommes dans l'exercice de nos prérogatives constitutionnelles. Il sait bien qu'au niveau du gouvernement central, nous exerçons aussi des contrôles et il le sait très bien, il n'a pas une institution qui est épargnée.
Quel jour y aura-t-il un contrôle, par exemple, au niveau du Sénat?
Mais nous, au niveau du Sénat, même notre propre gestion a été contrôlée, ça vous le savez. Le Sénat, je peux vous dire aujourd'hui, qui peut être un modèle de gestion. Mais je voudrais quand même aussi réagir par rapport au propos de mon interlocuteur, Maître
Dismas.
Je vais d'abord dire, par rapport à ce que vient de dire mon collègue, le professeur à côté de moi ici, les sources de ce fonds, puisque lui parlait de la rétrocession. Il sait très bien quelle est la hauteur des recettes de la province de l'Équateur. Et que la province de l'Équateur ne contribue même pas à 2% aux recettes nationales. Et que si on doit s'en tenir à ce que lui verse, on doit lui rétrocéder, la province de l'Équateur n'aura même pas les 1/20 de ce qu'il est en train de recevoir. Nous en avons les statistiques. Pourquoi, quelque part, il a posé une question pour demander pourquoi pas les exercices 2007-2008. Mais notre mission concernait les trois exercices, de mars 2007 jusqu'à octobre 2009. Nous avons agi sur base des éléments à notre possession. C'est pour vous dire que nous ne pouvions pas prendre ou ramasser les éléments dans la rue. Au niveau de la gestion de Makila, puisqu'il voulait faire allusion à cela, quand nous avons eu des éléments qui pouvaient prouver que Makila aussi a détourné, nous l'avons dit dans notre rapport, les reliquats de rémunération sur les professionnels de la santé des enfants, retirés par la province sur base des arrêtés de réquisition, sans déclarer cela, au niveau du gouvernement central qui a envoyé les fonds. Nous avons considéré ça comme détournement. Et ces pratiques ont continué jusqu'aujourd'hui. Il y a eu même, au niveau de l'Assemblée provinciale, un aveu de Bayende sur le détournement, où il a demandé pardon. Même pour ça, vous voulez demander des PV? Ça, c'est aussi un PV. Au niveau du rapport que nous avions eu à l'Assemblée provinciale, il a accepté que c'était dû à cause de son inexpérience. Est-ce que c'était motif de pardon ou d'abandon de ce qu'il devait faire. Je vais vous dire même pour ce pardon. Même dans la Bible, le pardon n'exclut pas la réparation.
Maître Dismas Mambengu, très brièvement, il y a Frédéric de Mbujima et au Cassé Oriental qui dit « Tous ces détournements sont horribles. Curieusement, les auteurs sont membres de la majorité présidentielle. Je me demande quel avenir pour ce pays. Reste à voir comment la tolérance zéro sera appliquée sur les auteurs de ces détournements. »
Oui, merci, monsieur le journaliste, pour la parole. Je crois qu'on parle de tolérance zéro parce que les faits n'ont pas été interprétés. Il n'y a pas eu des auditions dont le principe du contradictoire n'est pas intervenu. Et c'est pourquoi les gens ont la faculté du langage de qualifier cela de détournement. Et je reviens un peu en arrière, en ce qui concerne le contrôle sur les provinces. L'article 180, je renvoie un peu mon frère constitutionnaliste Ngondakoy, l'article 180 est clair. Le contrôle des finances des provinces, n'est-ce pas, est laissé à la Cour des comptes et à l'Inspection générale des finances. Et cette année, l'Inspection générale des finances est descendue deux fois à l'Équateur et la Cour des comptes est descendue une seule fois. Donc je voudrais rassurer les gens que ne fût-ce que sur base de ces trois rapports, s'il y a eu détournement, Je crois qu'aujourd'hui, on ne chercherait plus à envoyer le Sénat. Et le Sénat, qui se trouve à Kinshasa, n'est pas seulement là, n'a pas été établi seulement pour la province de Frater. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Qu'est-ce qui se passe au Bandundu? Un peu presque partout au Congo, mais on ne voit que l'Équateur. Et quel Équateur? L'Équateur devant les élections. Et quel Équateur? L'Équateur après les élections. Donc, comprenez bien, nous avons des réalités que nous gardons encore frais dans nos mémoires, que nous ne voulons pas aujourd'hui divulguer. Nous les gardons pas vers nous.
Merci, maître. Juste le temps de donner la parole au prof Gaspard, Paul Gaspard Ngondanko. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette émission, professeur.
Oui, je me réjouis que le confrère Dismas puisse invoquer l'article 180 qui donne pouvoir à la Cour des comptes de contrôler les finances publiques, les finances de l'État. Mais je crois que nous ne nous contredisons pas, mais seulement on doit introduire une nuance. Le contrôle qu'exerce la Cour des comptes, c'est un contrôle juridictionnel. Il n'exclut pas les contrôles d'autres organes de l'État, et notamment le Parlement, qui lui exerce un contrôle politique. Il n'exclut pas non plus un contrôle administratif qui peut être exercé par le ministre des tutelles, soit par voie hiérarchique, soit par voie des tutelles précisément. Le problème avec mon confrère, c'est au niveau de l'exclusivité du contrôle. Il pense que si on reconnaît à la Cour des comptes un certain type de contrôle, ou à l'Assemblée provinciale un certain nombre de contrôles, que ce contrôle est exclusif et que d'autres organes de l'État ne peuvent pas le faire. Le problème, c'est celui-là.
Alors, professeur, puisque vous avez la parole, on aborde directement la deuxième partie de cette émission. Quelles pourraient être les conséquences de ce rapport qu'est-ce qui va s'ensuivre?
Bon, j'ai lu le rapport de la commission sénatoriale d'enquête comme tout le monde. J'ai cru comprendre que parmi les recommandations, le Sénat souhaiterait que le président de la République, le premier ministre et le ministre de tutelle, à qui le rapport est envoyé, puisse prendre des mesures, et notamment les mesures en rapport avec les poursuites judiciaires pour établir la vérité des faits. Et je voudrais rassurer Maître Dismas que pour l'instant, le rapport de la commission sénatoriale d'enquête ne peut pas être pris pour une parole d'évangile, parce que les cours des tribunaux sont là et ils ont tout à fait la possibilité de venir se défendre devant les cours des tribunaux. Et donc la conséquence sur le plan juridique, c'est qu'une fois qu'on a établi des faits, qui sont pour l'instant encore des indices sérieux de culpabilité, eh bien, ça sera transmis aux autorités judiciaires compétentes et le gouverneur de province aura l'occasion de se défendre. J'ajoute, si le président de la République, le premier ministre ou le ministre des tutelles ne veulent pas poursuivre le gouverneur de province, la loi du 31 juillet 2008, article 67, ou le règlement intérieur du Sénat, article 182, donne tout à fait pouvoir au président du Sénat de saisir lui-même les cours des tribunaux sur la base de ce rapport-là.
Sénateur Jonathan Bialosuka, quelles pourraient être les conséquences de ce rapport? Le professeur a donné quelques éléments déjà, d'après vous.
Je reviens un peu, permettez que je revienne un peu en arrière.
Très rapidement,
on a parlé de la Cour des comptes. Je pense que tout le monde a suivi la lecture de notre rapport. Nous avons même repris dans notre rapport des extraits du rapport de la Cour des comptes, qui s'était aussi plaint des obstructions fréquentes dont cette Cour a été obligé de la part du gouverneur Bayende. Donc ce n'est pas seulement face à l'enquête du Sénat que le Bayende tente toujours de se retirer de l'enquête. Si vous voyez les inspecteurs de finances qui étaient là, ils se plaignent de même pratique de la part de ce gouverneur.
Alors quelles pourraient être les conséquences?
Les conséquences, je pense que mon collègue à côté venait de le dire, le Sénat a fait son travail. Nous agissons sur base des recommandations et des résolutions. Nous avons envoyé ça à qui de droit, mais du moins dans les 30 jours qui suivent, si ces institutions ne font rien, le président du Sénat peut saisir les cours des tribunaux pour l'état d'espèce. Donc, l'épisode est encore là. On ne croit pas que ça sera mis dans le rapport, dans le frigo, comme un de nos interlocuteurs l'avait dit. Je voudrais aussi avancer en vous disant une chose. Vous suivez depuis que nous avons commencé. C'est le débat sur la forme. Rien n'est dit sur les éléments qui sont dits dans les rapports. Je peux même me réjouir aujourd'hui pour dire que c'est un rapport inattaquable. Depuis que nous avons commencé.
Maître Dismas Mambengo, quelles pourraient être d'après vous les conséquences de ce rapport, par exemple sur la gestion de la province, sur l'avenir même de la province de l'Équateur?
Oui, je crois que j'ai suivi l'honorable sénateur, peut-être qui comprend mieux les choses que moi, qui oublie que le droit est une science formelle d'abord, et que c'est connu que ce rapport, vous avez bien posé la première question, d'où viennent les éléments de ces rapports? Les éléments de ces rapports ne sont pas des éléments fiables. Et nous n'avons pas peur de répondre, n'est-ce pas, au contrôle du Sénat. Nous avons au contraire contesté la qualité du Sénat. Et nous attendons, parce que connaissant les éléments politiques, connaissant les enjeux politiques, que le Sénat, parce que l'enquête, disons, la motion pour instituer la résolution ou instituer une commission d'enquête à l'Équateur, n'oubliez pas qu'elle est venue d'un originaire de l'Équateur.
Maître Dismas.
Et n'oubliez pas que... Permettez.
Maître Dismas, nous n'avons plus beaucoup de temps. Pouvez-vous répondre directement à la question, je vous en prie.
Je termine sur la phrase.
Allez-y, je vous en prie.
N'oubliez pas qu'avant de soulever la question devant la plénière du Sénat, plusieurs débats entre nous, frères de l'Équateur, ont été portés sur cette question. Et nous disons que c'est plus une question politique, positionnement 2011, que nous n'avons pas peur. D'ici demain, si la Cour suprême dit qu'ils ont qualité, ou d'ici demain, si saisissent la justice directement, nous allons répondre, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'on a été blanchi, parce que tous les éléments sont corrects. Ce rapport n'en est pas un parce que la commission elle-même sollicite le renouvellement de cette commission. Ce rapport n'est pas un rapport d'une commission qui a travaillé correctement, officiellement, mais c'est un rapport d'espionnage, un rapport
d'espionnage
politique. Je vous écoute, monsieur.
Voilà, très brièvement, il me reste 2 minutes pour terminer l'émission. Ouais. Donc, pour vous, ce rapport n'aura aucune conséquence.
Aucune conséquence, j'insiste.
Voilà, professeur Paul Gaspard Ngondankoy, Jean-Rémy Mileko de Mbandaka, l'Équateur, demande que la commission sénatoriale me dise ce qui se passera si la Cour suprême de justice ne lui reconnaissait pas la compétence de contrôler directement la gestion d'une province.
Attendons de voir. Nous sommes habitués à des décisions de la Cour suprême et en ce moment-là, on verra. Mais pour l'instant, en tout cas, la commission d'enquête a eu lieu. Elle semble se fonder sur des éléments clairs qui sont fondés sur la Constitution et les lois de la République. Et pour l'instant, ce rapport ne souffre d'aucune illégalité ni inconstitutionnalité. Ce que je voudrais ajouter, c'est qu'avant que cette Cour suprême ne se prononce et avant que les rapports de la Commission sénatoriale d'enquête du Sénat d'enquête puissent avoir une suite, il faut éviter des échanges de mots qui peuvent donner l'impression qu'il y a une sorte d'outrage envers tel ou tel Parlement, parce que les conséquences des mots que nous prononçons sont parfois fâcheuses quand il faut appliquer certaines dispositions de la Constitution.
Alors, tout en gardant la parole, professeur, votre conclusion déjà, parce que l'émission va toucher à sa fin.
Je me réjouis qu'il y ait cette expérience première à l'Équateur, que le Sénat aille prendre jusqu'à l'Équateur faire ce contrôle. Je crois que c'est un élément de jurisprudence. J'espère que ça pourrait être généralisé sur l'ensemble des autres provinces. Mais il faut se réjouir qu'aujourd'hui, les mécanismes qui sont prévus dans la Constitution sont quand même en train d'être appliqués, quoique parfois avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup d'incompréhension.
Sénateur Jonathan Bialosuka, vous ramassez quelques propos de Maître Dismas et vous concluez également.
Non, jusque-là, il n'a pas ajouté un nouvel élément, il ne fait que se redire. Et je n'ai pas commenté, puisqu'il ne peut même pas nous reprocher d'avoir demandé le renouvellement de la commission.
Pourquoi vous avez demandé ce renouvellement?
Oui, il faut savoir qu'il y a eu un aspect. On ne voulait pas que le cas Bayende soit un précédent pour les autres gouverneurs, qu'il continue à se soustraire de la mission. Mais cela ne met pas en suspension tous les faits lui reprochés. Je venais de vous dire un cas, des opérations qui se passent avec Soficom.
Mais il y en a tant d'autres,
laissez-moi le temps de dire à nos auditeurs.
Mais est-ce que ce contrôle pourra-t-il s'étendre à d'autres provinces?
Oui, le Sénat a demandé, et disons la commission a fait une recommandation pour généraliser le contrôle, puisque nous estimons qu'au niveau des provinces, les choses se passent comme si c'était un État dans un autre État.
Maître Dismas Mambengu, un mot en 15 secondes, je vous en prie, en guise de conclusion.
La commission d'enquête n'a pas eu lieu, ce rapport n'est pas valide, c'est un rapport irrégulier.
Merci beaucoup à vous, à Maître Dismas Mambengu, conseiller principal du gouverneur de l'Équateur. Merci au professeur Paul Gaspard Ngondankoy, enseignant de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Merci au sénateur Jonathan Bialosuka, sénateur et rapporteur de la commission Lunda Bululu. Cette émission est terminée. La réalisation était de Guy Mathieu, assisté de Kevin Kouté et Samuel Kachak. La mise en onde de Sylvain Baogwere. La présentation dans l'aéron sous la coordination de Martin Sebujangwe. À demain, Inch'Allah.